Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Avec les fêtes de Tishri et Rosh Hashanah qui arrivent à grands pas. Et on avance dans notre étude toutes les semaines de la paracha, du passage qu'on lit dans nos communautés de la Torah. Et nous sommes cette semaine dans la paracha qui s'appelle Kitetsé. Alors dans Kitetsé, il y a toute une série de choses. Notamment, il faut savoir que c'est un devoir de chaque juif de ramener un objet qui a été perdu. Nous, on se dit, c'est bien. Non, c'est pas que c'est bien de faire ça. C'est que c'est une obligation, c'est une mitzvah de la Torah. Vous trouvez quelque chose, vous devez le rendre. Et même si, tant que vous n'avez pas trouvé la personne à qui ça appartient, vous devez le garder chez vous. Or, la façon dont la Torah nous présente ce commandement est très étonnante. Et c'est sur ça, Rav Lemel, que vous voulez nous interpeller et nous donner votre dracha ce soir. C'est que la Torah utilise un mot de trop. Elle dit que si tu passes par exemple devant l'âne de ton frère, tu ne feras pas semblant que tu ne l'as pas vu et tu lui ramèneras. Or, bah, si tu veux lui ramener, c'est que tu n'as pas fait semblant de ne pas l'avoir vu. Et deuxièmement, si tu ne fais pas semblant de ne pas l'avoir vu, bah, tu vas lui ramener normalement. Ou alors tu fais semblant de l'avoir vu. Bref, il y a là un vrai motif de réflexion et vous voulez nous interpeller sur cela ce soir, Rav Lemel.
Exact. Alors, on a en effet ici déjà le premier enseignement qui est donc cette notion de ne pas s'écarter de ce que l'on voit, d'assumer sa responsabilité par rapport à quelque chose qui est perdu. Mais justement, eh bien, c'est une lecture différente que j'ai envie de vous proposer ce soir. Cette lecture, en vérité, c'est la lecture du Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh va avoir ici une lecture différente et il va nous dire que, eh bien, on parle dans cette paracha en premier lieu des tzadikim, c'est-à-dire des personnes qui essayent d'agir de manière juste dans l'univers. Et le texte nous dit comme ça, « Qui tirait lorsque tu verras Shorachicha, le bœuf de ton ami, Oseyo, ou alors son mouton, qui sont perdus ?» Et regardez ce qu'il dit, enfin écoutez. Eh bien, le Or HaChaim dit la chose suivante, « Elehem bene adam shenim shelu kabemod vehem son kodashim » Il s'agit des individus que l'on compare ici à des animaux, pas au sens péjoratif du terme, tson kodashim, comme on a envie de dire, suivant l'expression bien connue, les troupeaux saints, les troupeaux sacrés, eh bien, ne voient pas ces choses-là, et nidachim, qui sont écartés, c'est-à-dire qui se sont éloignés. Eh bien, le texte nous dit la chose suivante, lorsque tu vois en effet tes frères ou tes sœurs qui semblent s'être écartés du chemin, qui sont loin de l'univers de la Torah des Mitzvot, eh bien, n'imagine pas que vehita alamtameem, tu t'en écartes, c'est-à-dire tu fais en sorte, vous savez un petit peu comme on dit, chacun sa vie, chacun son chemin. Je le respecte, tu me respectes, on se respecte, et puis je ne vais pas intervenir, je ne vais rien faire par rapport à l'autre. Eh bien, le texte nous dit justement, on a l'obligation justement, Hachev te shivem, c'est-à-dire les ramener, Mitrilay Hashivem Drechatov, eh bien, il faut les ramener vers le bon chemin, et à travers cela, ils se rapprocheront du Créateur de l'univers. Et il continue, il nous dit, Vimlo Karovachicha, et le texte nous dit, mais si ton frère n'est pas proche de toi, alors quoi, tu dois courir tellement loin pour lui ramener les choses. Et le Or HaChaim HaKadosh va nous ouvrir sur une autre lecture. Il dit, Medaber Alzman Agalut Acharon. Ce verset fait allusion justement au dernier exil, qui en effet nous semble extrêmement loin, dans le sens où en effet nous ne savons absolument pas de quelle manière nous allons pouvoir un jour aboutir à quelque chose. On est là dans cet exil. Eh bien, le texte nous dit, Asafto el Torbetecha, cette personne-là, eh bien, pour l'aider justement à se reconnecter à son identité, reconnecte-la à sa maison, c'est-à-dire au Beit HaMidrash, c'est-à-dire dans le lieu dans lequel on apprend, suivant les mots du Roi Chaim, Orchot Chaim Medrech Ishkon Or, les chemins de vie, les chemins qui permettent en effet d'être dans la lumière. Et en effet, eh bien, on a ici déjà cette première dimension qui est enseignée ici. Et le Roi Chaim va continuer à développer cela dans les autres versets. Il va nous dire Hakem Takimimo, lorsque l'on voit en effet l'âne ou l'animal de notre ami, eh bien, qui sont tombés dans le chemin, eh bien, de la même manière, Hakem Takimimo. Et regardez ce qu'il nous dit. Shelo yomar atzadik shelo nistave elali ishanidar baverot aval yeshno bahashav aval im nafal harbe lo archia le anoflim. Il dit, pour ne pas que les gens se disent, bon, ok, des gens ne font pas très bien les choses. Alors là, en effet, on va les aider à reprendre la bonne direction, mais là, ils sont tombés, c'est-à-dire il s'agit de quelqu'un vraiment de très loin et qui, en plus, fait les choses de manière négative, il s'est éloigné. Eh bien non, Hakem Takimimo, le texte nous dit, il faut l'aider à se soulever, mais il s'arrête sur le fait Imo avec lui, c'est-à-dire que, évidemment, il faut que la personne à qui on a envie d'indiquer cette reconnexion au chemin de la Torah en ait un tout petit peu envie, elle aussi. Et donc, à ce moment-là, on doit être à ses côtés. Et donc, on a ici, au fond, cette seconde lecture du Roi Chaim qui est merveilleuse. C'est-à-dire qui nous dit, voilà, sache que tu rencontreras dans ton existence des personnes qui, en effet, sont loin. Des personnes qui, pour certaines, ignorent. Des personnes qui sont contre. Toutes sortes de personnes qui ont un rapport avec la Torah et les mitzvot qui n'est pas celui qui devrait être. Eh bien, l'idée de se dire que chacun sa vie, chacun son chemin, l'idée de se dire qu'au fond, chacun fait ce qu'il veut et que c'est son problème, pour la Torah, ce n'est pas possible. Pour la Torah, en effet, il y a cette notion de responsabilité. On se doit d'ouvrir l'autre à la découverte ou à la redécouverte de son identité, mais qui ne passe pas juste qu'à travers quelques actes identitaires, mais beaucoup plus une reconnexion au Beit HaMidrash, une reconnexion à l'étude, à la connaissance, au savoir et à tout ce qui va autour. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas simple, parce qu'on va pouvoir rencontrer des personnes qui parfois sont en quête, mais pour d'autres, qui semblent être opposées. Eh bien, ces personnes-là, il ne faut pas justement qu'elles s'éloignent encore plus. Vous savez, ce qui était nécessaire, c'est de faire ce qu'on appelle des ponts entre les individus. Et si on s'arrête un instant sur le mot « pont », en hébreu, le mot « pont » se dit « guécher ».« Guécher », c'est un pont. Avec les lettres du mot « guécher », qui est le mot « pont », vous pouvez faire deux types de mots. Vous pouvez faire soit le mot « regesh », qui veut dire en effet la sensibilité, soit « garesh », qui est le mot « rupture »,« guérouchine », c'est le moment dans lequel on fait un divorce. Eh bien, c'est intéressant de voir que tout dépend de la sensibilité. Si on a du regesh, eh bien, en effet, on peut créer un guécher, c'est-à-dire on peut créer un pont. Mais si, malheureusement, on met de côté le regesh, on met de côté la sensibilité, c'est-à-dire on n'a pas envie d'essayer d'imaginer, de ressentir ce que l'autre fait, eh bien, c'est les guérouchines, c'est la rupture, c'est le divorce. Et peut-être c'est sur cela qu'on devrait travailler aussi. C'est-à-dire redévelopper notre sensibilité, essayer de réfléchir et de nous dire, au fond, cette personne qui est loin, elle n'a peut-être pas eu la chance d'apprendre, ou alors peut-être ceux qui lui ont appris l'ont traumatisé. Peut-être que cette personne, au fond, son expérience dans l'univers de la Torah et de l'Emitzot a été difficile, et c'est la raison pour laquelle elle prend une distance. Et donc à nous d'essayer de faire preuve de sensibilité, de ressentir ce que l'autre peut ressentir, de là où se situe peut-être sa difficulté, pour pouvoir l'aider à se reconnecter. On est dans un monde dans lequel, eh bien, l'idée de la responsabilité doit être au cœur même de notre existence. Oui, en effet, nous avons une responsabilité de permettre à celui qui s'est perdu en route, même s'il est persuadé qu'au fond, il n'est pas du tout perdu, de lui permettre de se retrouver véritablement là où il doit être, c'est-à-dire en tant que Ben Israël, en tant qu'enfant d'Israël, en tant que juif, qui assume pleinement ce que ça veut dire dans tous les domaines de son existence. C'est un beau travail, mais c'est en tout cas la lecture qu'en fait le Ora Chaim. Donc vous voyez cette obligation que la Torah nous dit de ne pas détourner notre regard et de ramener les choses. Évidemment, elle s'applique au cas concret que la Torah nous décrit, mais en même temps, il y a une seconde lecture qui est fondamentale et qu'il ne faut surtout pas oublier.
Que c'est beau. Garesh, ah, terrible, rejeté. Avec, je vais demander votre permission pour raconter une histoire que vous connaissez par cœur, parce qu'il s'agit d'un des plus grands hommes, des plus grands balais moussards du monde des yeshivot, c'est Rav Smulevitch. Et moi, j'ai entendu ça de Rav Tobiano dans un cours. Et il a écrit tout, si tu vois quelqu'un qui faute, toute personne qui peut lui faire une remontrance doit lui dire. Mais c'est bizarre. Et donc, voilà, si tu peux lui dire, tu lui dis. Mais c'est très bizarre. Pourquoi toute personne qui peut ? Tout celui qui peut, quand on traduit des fois. Ben, il n'y a pas marqué tout celui qui peut faire Shabbat, il va faire Shabbat. C'est marqué, tu vas faire Shabbat. Alors, s'il y a marqué tout celui qui peut, dit Rav Smulevitch, et je parle sous votre contrôle, eh ben, c'est parce qu'il y en a plein qui ne peuvent pas. Et même dit Rav Smulevitch, disait, il y en a une grande majorité qui ne peuvent pas. Donne l'exemple. Pas de remontrance. Un exemple.
Alors, il faut savoir que cette notion de remontrance, d'abord c'est le bon terme, remontrance, c'est pas reproche. Le Chazon Ish, qui était un maître parmi les maîtres, a dit que aujourd'hui, sans doute, on ne peut plus faire des remontrances. Pourquoi ? Parce que il peut y avoir très très souvent dans nos paroles une forme de jubilation d'être le donneur de leçons, d'être celui qui met le point sur ce qui ne va pas chez l'autre. Ça peut être aussi parfois un désir de prendre le pouvoir ou de se sentir bien en tant que personne qui est là, un petit peu dans la posture de, pardonnez-moi l'expression, du flic du bon Dieu. Oui, en effet, comme vous l'avez parfaitement dit, c'est une obligation que l'on a, mais il faut faire preuve d'une vigilance extrême pour être sûr que les choses sont dites sans intérêt personnel, sans désir de prendre le pouvoir, sans vouloir être donneur de leçons. Et ça, c'est chacun d'entre nous qui doit y réfléchir, évidemment. Parfois, ne pas dire les choses, ça peut faire encore plus avancer parce que, quelque part, la personne sait que je pourrais dire et je ne dis pas. Et donc, ça lui révèle peut-être qu'on a une sensibilité. Par contre, ce qui est sûr, et c'est une parole que j'ai entendue d'un maître qui est le Rav Eurbach, qui est le Rav de Tel Aviv, le fils de Rav Shlomo Zalman Eurbach, et puis justement, on est changé sur cette notion de faire des remontrances, et vous avez tellement raison, il faut savoir le faire, le dire, et parfois quand justement on se rend compte qu'on ne peut pas, alors il vaut mieux se taire, mais il nous disait, rappelez-vous toujours, et je crois que c'est quelque chose que j'ai une fois cité sur votre antenne, eh bien, on ne repousse pas l'obscurité à coups de bâton, mais on rajoute de la lumière. Et c'est peut-être cette lumière qui justement va remplir ce rôle, et va permettre les personnes qui la découvrent, d'avoir envie d'être dans une dynamique qui va sans arrêt vers le mieux.
Avélie Lemel, je vous remercie. On va essayer de s'y tenir. On va suivre ce très bel enseignement. Merci à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et on part à présent pour Jérusalem, on le retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pendant ce mois de Elul.
Et nous, oui, le roi est dans les champs, et nous de vous avoir à Jérusalem, vous nous apportez toujours un peu de lumière de là-bas, c'est un vrai plaisir. Rav Mordechai Biton, justement de Jérusalem, on va continuer à réfléchir sur la paracha de notre semaine, et bah vous voulez déjà vous interroger sur le sujet, sur le thème de la paracha, qui t'itse la milchama, si tu sors en guerre. Mais sors en guerre, de quoi il s'agit ? Alors, il s'agit notamment, avez-vous envie de nous dire, je crois, il s'agit notamment de comprendre que la vie est un combat. Avec des règles, bien sûr, mais la vie est un combat et on doit le comprendre et on doit mener ce combat. De quoi voulez-vous parler ce soir ?
Ah, absolument, parce que c'est Rashi hein, qui nous met sur cette voie. En apparence, le texte, c'est pas en apparence, c'est dans le pshat, dans le sens littéral offert à la lecture de chacun d'entre nous, on parle d'un soldat juif qui part en guerre, qui va donc faire des prisonniers et des prisonnières. Au milieu de ces prisonnières, il voit une femme qui lui plaît et il décide de convoler en injuste noce avec cette femme parce que la Torah ne regarde pas ça de manière très positive. Et Rashi va dire ici, bah, la Torah, elle parle finalement contre les forces spirituelles négatives, contre le Yetzer Hara. Au lieu de laisser ce soldat livré à lui-même, la Torah va codifier le rapport avec cette femme prisonnière. Donc en fait, la Torah va inviter cet homme-là finalement à faire preuve de retenue et à ne pas chercher immédiatement à se marier avec elle, essayer de revenir un petit peu à lui-même. Il va donc se dérouler tout un processus qui va permettre à ce soldat juif de revenir à lui-même, à sa réalité de juif, et de comprendre que cette femme midianite, moabite, égyptienne ou autre, etc., femme non juive, n'est pas forcément faite pour lui. Mais Rashi dit, ici, la Torah a parlé contre le Yetzer, contre le mauvais penchant. Et le Roi Haim HaKadosh, il va embrayer, et il va développer ce thème, et il va le pousser jusqu'à son terme le plus ultime. Alors je parcours avec vous ce que dit le Roi Haim HaKadosh, et vous allez voir, c'est tout à fait passionnant. Il va dire, tu pars en guerre, et tu vas voir une Isha Yefat Tohar, tu vas voir une très belle femme. Qui est cette belle femme que tu vas voir? Et bien, quand tu pars en guerre, quand tu décides pendant le mois de Elul, qui est le mois qui t'a été donné pour te préparer à Rosh Hashanah, tu décides de partir en guerre contre ton Yetzera, contre tes forces spirituelles négatives, tu décides de t'améliorer. Quelle est la première chose que tu dois regarder? La très belle femme qui est en toi, qui est cette femme? Ton âme divine, la partie divine, l'éclat poétique de cette force divine qui est en toi et qui s'appelle la Neshama. Tu as cette force pure qui est en toi, elle t'a été donnée pour t'accompagner, elle est inatteignable. Rien ne peut abîmer cette force, rien ne peut la détruire, rien ne peut la détériorer. C'est d'abord la première chose que tu dois regarder. Il y a des forces magnifiques en toi. Et alors après, ça continue. Vechashaktaba, tu vas la désirer. Qu'est-ce que tu vas désirer? Tu vas désirer réveiller ces forces. Tu vas réveiller la force de don, la force de prier, la force de l'espoir. Tu ne vas pas te laisser faire par tes multiples défaites, les défaites que tu as eues cette année quand tu as voulu changer, quand tu as voulu t'améliorer. Tu vas lutter. Tu vas lutter. Et alors, comment est-ce que tu vas lutter? Eh bien, Ve'evetal Torbetecha, tu vas l'amener dans ta maison. C'est quoi ta maison? C'est les centres d'études. C'est la synagogue. C'est le lieu où tu pries. C'est le lieu dans lequel tu es dans une posture de lien avec Hachem. Tu rétablis le lien avec Hachem. Dans la prière, c'est toi qui parles à Hachem. Dans l'étude, c'est Hachem qui te parle. Et tu vas rentrer dans ce lien, tu vas l'amener au milieu de ta maison. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, Vesira et Tsimlat Shivya, tu vas lui enlever son revêtement. C'est-à-dire que tu vas enlever le revêtement de ta vie. Tu vas essayer de décortiquer un peu ton existence. Tu manges, tu bois, tu dors, tu travailles, tu veux gagner de l'argent. Bref, tu te passionnes pour le monde, pour la mondanité. Et cette mondanité, elle devient quelque chose d'un peu obsessionnel chez toi. Elle prend parfois même la place de ta neshama. Tu oublies que tu as une neshama, une partie divine. Tu oublies que ta neshama est venue ici pour remplir un certain nombre d'obligations. Tu te concentres sur le fric, comme on dirait trivialement, les jouissances. Et tu te perds. Tu te perds parce que tu oublies que quand tu jouis, tu dois aussi faire jouir ta neshama. Ce n'est pas que ton corps, que ton psychisme qui jouit, c'est aussi ta neshama. Il y a une partie divine en toi. Elle doit recevoir son lot. Et donc ici, tu vas te mettre en lutte. Et c'est extraordinaire de voir que cet outil de lutte, c'est d'abord la beauté intérieure. Et c'est ça qui nous est dit finalement dans le mois de Elul. Le rabbi de Brezen, un rabbi chassidique, il disait, on dit tous les matins dans les Tehillim que nous lisons avant la lecture du schéma, Allelu Betof ou Machol. On demande de louer à Kadosh Baruch Hu Betof avec des tambourins. Elle a dit Tof, le mot Tof, c'est Gematria 480. Et bête, c'est 2. Et 2 fois 480, c'est 960. C'est quoi 960? C'est les 960 heures qui composent les 40 jours qui vont du début du mois de Elul jusqu'à Kippour. Eh bien, il faut louer Hachem avec un tambourin. C'est-à-dire qu'il faut que ce mois-là soit un mois de joie. On ne le vit plus du tout dans une époque aujourd'hui où la tchouva peut être une tchouva de contrition. La tchouva, c'est une tchouva, c'est un travail de remise en cause. C'est vrai que pendant le mois de Elul, on doit se remettre en cause. On doit réfléchir de manière très profonde et très lucide sur nous-mêmes. Ça, c'est clair. C'est notre travail. Ça suppose, d'une certaine manière, une part de dureté dans le travail, il faut dire les choses. Mais ça ne peut pas être fait si l'individu n'a pas conscience de toute la beauté intérieure qu'il a en lui et de ce cadeau qui lui est fait, qui est le cadeau de la tchouva. Il faut se rappeler que ce mois de Elul, il a été conquis par la tfila, par la prière, par Yaakov, qui a souhaité que Hachem, durant ce mois, tende la main, en quelque sorte, au peuple juif. Et on va vivre ici deux étapes. La première étape, c'est l'étape du mois de Elul, qui est l'étape de la préparation au din. On a l'habitude toujours de poser cette question. Pourquoi est-ce que Yom Kippour n'a pas lieu avant Rosh Hashanah? Pourquoi est-ce qu'on ne nous permet pas de faire tchouva avant le din? On devrait pouvoir se préparer. La réponse est qu'on oui, on peut oui se préparer. Parce qu'il y a deux étapes. La première étape, c'est les 30 jours de Elul, pendant lesquels on est en guerre contre le Yetzer Hara, au nom de cette beauté intérieure extraordinaire qu'on a en nous, au nom de cette beauté qui nous est offerte, qui est le lien avec Hachem, qui est le lien avec la Torah, qui est la possibilité de revenir vers soi-même et la possibilité de servir Hachem dans la joie, de bien vivre la joie des Shabbatot, de bien vivre la joie des Tfilot, de bien vivre même la joie des Slichot, d'une certaine manière. Cette possibilité même de venir demander pardon. Essayez de demander pardon à quelqu'un que vous avez vexé. Vous voyez bien que c'est dur. Et là, vous voyez que le roi des rois est quelqu'un à qui vous pouvez dire pardon et qui va vous pardonner. C'est ça, la préparation des 30 jours. Puis ensuite, après, il y a une deuxième étape. Dirshu Hashem behimatseo. Demandez Hashem quand il est là. C'est une autre dimension dans laquelle le monde devient une espèce de grand Beit HaKnesset et où la présence d'Hashem s'impose à nous et où le pardon est automatiquement accordé, dit le Rambam, Maïmonide dans les lois de la Teshuvah. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très rationnel, ce n'est pas kabbalistique. Le Rambam dans les lois de la Teshuvah dit que la Teshuvah elle est extraordinaire pendant l'année, notamment quand elle est faite en groupe, mais il dit pendant les 10 jours de Teshuvah, c'est une mitzvah positive de la Torah parce qu'Hachem est là. C'est-à-dire que la mida, l'attribut de bonté et de miséricorde est là et Hachem tend la main. Et on n'a qu'à demander pardon. Et le pardon est accordé et le travail peut démarrer. Alors, autre point, il y a un point très important. Cette Eshet Yefat Toar, cette femme dont on parle, c'est aussi les initiales Eshet Aleph Shintav de Hachem Sefata et Tiftar ou Fiyagit et Ilatecha. D'accord ? Cette Eshet Yefat Toar, c'est aussi les initiales de Pasuk qu'on dit juste avant la Amida. Quelle est cette beauté qu'on a en nous, cette pureté, cette force qu'on a en nous, le premier verset dans lequel on dit Hachem, Hachem ouvre les lèvres de ma bouche et je dirai tes louanges, c'est le passouk, le verset qui introduit la Amida, la prière que nous récitons trois fois par jour. Cette force sublime qui est en nous, c'est le fait de pouvoir parler à Hachem, de pouvoir lui parler, de savoir qu'il nous écoute. Encore une fois, une parabole. Essayez d'arrêter la caravane du Premier ministre aujourd'hui pour demander 5 shekels. Vous avez un procès, vous avez entravé l'ordre public, vous êtes jeté en prison et vous en avez pour 6 mois à vous en sortir. Vous n'allez pas recevoir 5 shekels, vous allez payer 50 000 shekels d'amende et de frais d'avocat. Tous les jours, vous pouvez parler à Hachem, au roi des rois, et lui demander ce que vous voulez, y compris 5 shekels. C'est cette force extraordinaire qui est donnée ici pendant le mois de Elul. La prière devient ici l'instrument du lien avec Hachem et elle est écoutée, elle est entendue. Je crois que c'est quelque chose, c'est une expérience humaine, psychologique et spirituelle absolument extraordinaire. Il faut prendre conscience de ce cadeau qui nous est fait. C'est ce qui nous est proposé dans cette paracha où on nous parle de partir en guerre. Partir en guerre, mais partir en guerre en ayant d'abord en tête la beauté extraordinaire de ce qui nous est offert, de ce qui nous est donné, ce cadeau extraordinaire que les anges, que la Torah, que les sages ne savaient pas déterminer, ne savaient pas ce que devait faire quelqu'un qui avait fauté, et il a fallu remonter jusqu'à Dieu, c'est-à-dire au-dessus des lois de la nature, pour poser ce principe qui a été créé avant la création du monde, qui est le principe de la possibilité de se rédimer et d'effacer complètement une vie et de la reconstruire. C'est une donnée absolument extraordinaire. Voilà ce qu'on peut dire pour introduire la réflexion sur cette paracha.
Et vous savez, ce dont vous venez parler, on se pose la question tous les ans. On se dit, mais je comprends, faire tchouva, il faut être très triste. Donc j'ai envie de dire de manière un peu avec le sourire à l'ashkenaz. Il faut être très gai, parce que c'est quand même extraordinaire. Nous, on dit « Rata, nous les fans », on est très gai, en disant des choses qui normalement devraient demander de la contrition. Et Rav Rosenberg nous avait fait remarquer que le rabbi de Lubavitch disait « Aïkar amassé, tout ce que je vous demande c'est de faire des choses bien. Comment vous y arrivez ? Certains ont besoin, par la tristesse, et ça les rend tristes et après ils changent. D'autres le font par la joie, la gaieté, les chants, faites-le comme vous voulez. Aïkar amassé. » Je vous demande juste des actes qui soient des beaux actes. Après, prenez le chemin que vous voulez. C'est beau quand même.
C'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Mais il faut se rappeler une chose, c'est qu'on a souvent moqué ce noussar comme ça de Khatanou le Fanecha qu'on chante et tout, etc. Mais pourquoi est-ce que ce noussar, ce texte-là, il est chanté entre guillemets joyeusement ?
Parce qu'on est sûr d'être pardonné.
Venir devant. Oui, parce que quand on dit Hachem, j'ai pas fauté, on a un passouk qui dit Hachem dit, je t'ai jugé, toi, Jérusalem, parce que tu as dit que tu n'avais pas fauté. Mais quand un homme dit qu'il a fauté, automatiquement Hachem dit, bon, puisque tu reconnais que tu as fauté, alors je t'ouvre la porte de la Teshuva et je te donne des forces pour changer. C'est pour ça qu'on est heureux quand on chante ça. C'est extraordinaire.
Ouais, ouais. Shabbat Shalom, Rav Mordechai Biton. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gué. Rav Gué, bonsoir et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gué, vous voulez venir sur une mitzvah qui est dans notre paracha, qui est à toute fin de la paracha, et c'est celle de l'interdiction d'avoir des mesures faussées, qui est tellement considérée comme grave de fausser les mesures. C'est ce qui s'appelle les mesures, les poids et mesures. Vous savez, c'est par exemple, on va avoir un poids un petit peu cassé, comme ça, ça sera un peu moins lourd, et on paiera moins cher. Ou le contraire. On n'a pas fait exprès, vous voyez ce que je veux dire, magouille. C'est totalement interdit, c'est pas, on ne s'arrange pas, il n'y a pas d'arrangement. À tel point d'ailleurs que certains disent que quand on arrivera au jour du jugement dernier, on ne nous posera qu'une seule question, c'est est-ce que tu avais trafiqué tes poids et mesures. Et il se trouve que cette mitzvah est quasiment collée à celle de Amalek. Enfin, ce n'est pas une mitzvah Amalek, à Amalek, tu n'oublieras pas, on connaît. Et vous voulez nous inviter à réfléchir ce soir sur ce sujet. Et puis, pourquoi est-ce que les deux sujets sont liés l'un à l'autre?
Tout à fait. Alors, d'abord, je voulais juste faire une petite correction. Lorsqu'on arrive dans le monde futur, on a six questions qu'on nous pose. La première, c'est « Nasata venatata vemuna ». Effectivement, est-ce que tu as fait des affaires en étant honnête? Donc, effectivement, je confirme qu'il y a cette question de savoir s'il y a eu l'honnêteté pendant, dans les affaires. Ce n'est pas la seule question, mais c'est une des premières questions que l'on pose. Ensuite, par rapport à la juxtaposition à la fin de la paracha de Kitetsé, de la paracha, de la fameuse paracha d'Amalek, qu'on lit en général Shabbat Zachor, juste avant donc Purim, Rashi déjà explique que la juxtaposition de celui qui possède simplement des poids et des mesures faussées. Il ne les a même pas utilisés, il les a simplement chez lui. C'est déjà interdit. Et on nous dit que cette juxtaposition vient du fait, tout simplement, que si tu as des poids et des mesures qui sont faussés, eh bien, attends-toi à voir arriver Amalek. Amalek vient comme une sorte de sanction par rapport à ce manque d'honnêteté. Alors, on peut se demander, est-ce qu'il y a un lien entre la venue d'Amalek et le fait d'avoir des mesures qui sont inexactes. Et l'explication que je voudrais donner est très simple. Je l'ai vu dans le Shem Ishmoel, mais c'est important de le répéter aujourd'hui de très nombreuses fois. Amalek, c'est un descendant de Esav, un petit-fils. Esav, on sait tous qu'il est comparé au porc. C'est pas une façon de le mépriser parce que le porc, il a une particularité, c'est qu'il montre les sabots fendus, donc il montre toujours ses pattes. Elles sont cachères, ses pattes, parce que ses pattes ont les sabots fendus, mais je vous rappelle que pour qu'un animal soit cachère, il faut non seulement qu'il ait les sabots fendus, mais il faut aussi qu'il rumine. Et donc il veut tromper un petit peu le monde en disant, vous savez, je suis cachère moi, regardez mes sabots fendus. Évidemment, c'est une image, une métaphore, c'est pas que le porc a ces genres d'intentions, mais les sages utilisent cette métaphore pour nous dire que Esav est un comédien doué qui fait semblant d'être un homme très correct, un gentleman, comme on dit dans certains endroits, et qui en fait, par derrière, est complètement pourri. Et on voit ça avec Esav, l'ancêtre, qui disait à son père Yitzhak Avinu, est-ce qu'il faut prendre la dîme sur ceci, sur cela, comme s'il était extrêmement macpide, méticuleux sur l'accomplissement des mitzvot et des halachot, alors qu'en fait, par derrière, il faisait des choses terribles, mais il voulait paraître devant son père comme étant un monsieur très, très correct et très honorable et très distingué et très religieux. Et donc, ce mensonge que nous voyons chez Esav se retrouve à très grande échelle chez Amalek, qui veut montrer qu'il est quelqu'un de respectable. Et en fait, ce qui est très intéressant dans le Shem Ishmael que j'ai cité, c'est la fin de Parashat Bechukotai, qui se trouve Shem Ishmael, c'est qu'il dit qu'à la fin des temps, enfin Amalek arrive toujours à un moment très particulier de l'histoire. Donc, avant de recevoir la Torah, les Juifs ont, entre guillemets, la visite, une attaque surprise d'Amalek, qui ne supporte pas que les Juifs reçoivent la Torah, ils sont sortis d'Égypte, et ils vont recevoir la Torah. La Torah, c'est Torah Temet, c'est la vérité, avec un grand V, et donc lui, il ne veut absolument pas que cette Torah descende sur terre, et donc il s'attaque à Israël. On le retrouve lorsque les Juifs vont reconstruire le deuxième temple, où là encore, il intervient à Haman avec Achashverosh, puis finalement, on va reconstruire le deuxième temple avec le fils d'Achashverosh. Mais tout ça, Haman a voulu l'empêcher. On retrouve Amalek qui est venu nous attaquer pendant la Shoah, et juste après, on est retourné en Eretz Israël et on a pu s'installer. Mais voyant le retour en Israël, Amalek attaque. Donc Amalek nous menace à chaque fois. Mais ce qui est très intéressant et qui vient, ce que dit le Shem Ishmael, cet article que je vais vous citer à 111 ans, je crois que c'était en 1923 ou 1922, je ne me rappelle plus exactement, 1912 ou 1913 qu'il a écrit cet article, cet enseignement, ce chiot. Le Shem Ishmael nous dit que lorsqu'on voit tant de mensonges de la part de l'Occident, parce que Esav c'est l'Occident, et qu'on déforme la vérité, c'est un des signes d'Amalek. Amalek qui est toujours là en train de faire croire, toujours d'une façon très très vicieuse, mais en même temps il est très intelligent, que lui il cherche le bien, qu'il est un homme animé de très bons sentiments, mais en fait c'est parce qu'il veut avoir une apparence, on va dire, d'un gentleman, et par derrière il fait tout ce qu'il veut. Il dit que lorsque on voit autant de mensonges dans le monde, il ne faut pas désespérer, il faut se dire au contraire que c'est une des signes de la venue du Mashiach. Parce que le Mashiach, justement, c'est la vérité absolue qui va être s'imposer dans le monde entier. Mais avant la venue du Mashiach, il dit que c'est comme dans la nuit, vers la fin de la nuit, l'obscurité s'épaissit. Et donc, cet épaississement de l'obscurité peut nous paraître très angoissant et très qui nous met vraiment une situation de grand déséquilibre et de fragilité. Mais en même temps, elle annonce la fin de la nuit. C'est bientôt l'aube, c'est bientôt qu'on va prendre la lumière. Donc il disait à ses contemporains, le Shem Ishmael, nous sommes dans une période de grande obscurité, mais attention, je vois ça d'une façon optimiste, parce que c'est un signe que la vérité va bientôt apparaître et que l'obscurité et le mensonge essayent par tous les moyens d'exister, de survivre, parce que même s'ils n'en sont pas conscients, mais dans leur subconscient, ils sentent que c'est la fin qui arrive et il faut absolument sortir toute l'artillerie, tout ce qui reste dans les munitions pour essayer de résister au maximum. Et donc, c'est intéressant ce Shem Ishmael parce que justement, le fait d'avoir des poids et des mesures sans les utiliser, vous comprenez, ce n'est pas simplement quelqu'un qui les utilise, simplement il les a chez lui. C'est dire que tu acceptes qu'il y ait, même si tu ne l'utilises pas, des mesures complètement faussées. Donc, la mesure, par définition, c'est là pour t'offrir, te donner un kilo, par exemple, de pommes de terre. Je veux un kilo. La mesure est là pour dire s'il y a vraiment un kilo. Et le prix correspond évidemment au nombre de kilos que tu achètes. Lorsque j'utilise une fausse mesure, je vole, n'est-ce pas ? Je vole. Mais lorsque j'en possède sans l'utiliser, je n'ai pas volé. Mais le fait d'accepter d'avoir chez soi quelque chose qui pourrait amener à du vol, ou tout simplement qui est en fait du mensonge. Parce qu'une mesure où, sur laquelle c'est écrit un kilo, et nous savons bien que c'est plus un kilo, c'est 900 grammes, c'est un mensonge, même s'il n'est pas parlé encore, s'il n'est pas utilisé, c'est un mensonge qui devrait pour nous être insupportable. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que Hachem, lorsqu'il nous envoie des épreuves, et c'est le cas depuis maintenant quelques mois, et bon, même avant, mais quelques mois de façon plus... et où des mensonges nous font si mal et nous font très beaucoup souffrir de se dire que des gens, je ne parle pas du Hamas, mais je parle des gens qui ne sont pas du Hamas, des Occidentaux, qui acceptent les interprétations soi-disant du ministère de la Santé du Hamas. On va bien savoir ce que c'est le ministère de la Santé, mais en tout cas, prennent pour argent comptant ce que disent des terroristes assassins, en disant oui, on a attaqué une école, on a attaqué un hôpital, on a attaqué je ne sais quoi, et on voudrait crier devant ce mensonge absolument éhonté et cette défense qui est faite au nom des droits de l'homme. Attention, comment est-ce que Israël peut attaquer, peut faire se conduire comme ça, alors qu'en fait tout le monde sait qu'il s'agit évidemment d'une guerre de défense, qu'il s'agit de terroristes. Tout le monde se rappelle que pendant la Shoah, lorsqu'il s'agissait de vaincre les nazis, personne ne regardait si on a pu en envoyer des bombes sur des maisons habitées par des femmes et des enfants également. Je veux dire, on était tous bien d'accord que dans la guerre, malheureusement, on essaye de faire au maximum le moins de victimes, moins de victimes collatérales, mais c'est impossible. Et il n'y a aucune civilisation, aucune guerre qui a été menée par l'Occident où on a reproché à qui que ce soit d'avoir tué par inadvertance, évidemment, en choisissant de tuer des innocents, mais on sait très bien que ce n'est pas possible. Et donc, ce mensonge, on va dire mondial, est très difficile à accepter. Mais nous, on doit se poser la question. Si nous, on doit subir ce mensonge international, essayons de penser d'où il vient, quelle est son origine. Eh bien, la paracha répond, c'est parce que peut-être toi-même, tu n'as pas une vérité absolue. Je dis toujours, c'est quoi la vérité absolue ? C'est tout simplement savoir, c'est revoir si notre échelle de valeur est vraiment comme il devrait être, c'est-à-dire fondée, organisée en fonction de l'échelle de valeur de la Torah. La Torah nous dit, voilà, ça c'est important, ça c'est moins important, ça c'est ceci, cela. Il faudrait tout le temps, et c'est le mois d'Eloul qui nous invite vraiment à le faire, juste avant Rosh Hashanah, c'est d'arriver devant Hachem, au moins en étant émet, c'est-à-dire en étant authentique, en disant, j'ai fauté, je fais mal. Mais si on arrive à Rosh Hashanah, après le mois d'Eloul, en se racontant des histoires, en faisant semblant, en ignorant, ou tout simplement en ne prenant pas conscience de ce qui a été mal fait et ce qui pourrait être mieux fait, eh bien, on est encore une fois avec un instrument de mesure faussé, parce qu'on croit, on se raconte des histoires, et ça, ça passe pas à Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce qu'à Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu est prêt à nous donner une chance. Mais pour donner une chance, il faut qu'on soit conscient qu'on est dans l'erreur, ou qu'on n'a pas bien compris les choses, ou qu'on est dans le chéquier, qu'on au moins qu'on reconnaisse la vérité pour se dire, bon, je sais ce qu'il faut que je fasse et je vais me donner les moyens pour y arriver. Mais si quelqu'un nie, est dans le déni de la vérité, il ne se rend pas compte de ce qu'il est ou de ce qu'il fait mal, eh bien, on n'a aucune chance pour qu'il change l'année prochaine. Et c'est pour cela qu'avant Rosh Hashanah, on n'a toujours pas Rachat Kitetse, entre autres. Parce que il faut nous apprendre à avoir un instrument de mesure qui est en fait notre conscience, que l'on doit évidemment développer grâce à la Torah et en étudiant bien les choses d'une façon objective, éventuellement demandant conseil à des gens qui connaissent vraiment la Torah pour voir est-ce que je suis dans le vrai ou pas, pour savoir quels sont les efforts que je dois faire et dans quelle direction. Voilà ce que je voulais transmettre comme message. La fin de Kitetsé, c'est une invitation à se rappeler ce qu'a fait Amalek, mais aussi de se dire que si Amalek a l'autorisation de nous attaquer, c'est aussi peut-être parce que nous-mêmes, nous n'avons pas toujours été très authentiques, très émettes dans notre vie, que nous avons des instruments de mesure faussés. Pour les réparer, ces instruments de mesure, étudions la Torah, essayons de bien revoir les choses, soyons critiques envers nous-mêmes, une critique constructive et non pas destructive, une critique qui va nous permettre d'ouvrir les yeux pour essayer de voir vraiment où nous sommes et pour nous voir comme le verset, le texte de la paracha nous le donne, qui t'étsé, c'est sortir de ses certitudes, sortir de son confort, sortir de ses principes qui sont pas toujours de transibles de Emmet, pour essayer tout simplement de sortir de soi-même pour essayer de voir la vérité. Je souhaite à tout le monde un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Rav Guay. D'abord déjà, sur ce que vous disiez par rapport à Gaza, j'ai vu quelqu'un qui faisait remarquer, il disait on nous accuse de génocide. Mais ben, évidemment, c'est parce qu'on veut nous voler jusqu'à notre douleur. On peut utiliser tous les mots, mais génocide, ça veut dire chercher à tuer systématique. Mais c'est même pas c'est tuer beaucoup. C'est massacre. Mais si on veut vraiment dire génocide, c'est parce que on veut nous faire mal, quoi, comme vous disiez. Et j'ai vu quelqu'un dire, mais génocide depuis des années, la population des réfugiés palestiniens a triplé. Mais si on avait envie de génocide, est-ce que je veux dire, non seulement ils sont pas moins nombreux, ils sont plus nombreux. Alors, je dis pas que comme vous avez dit, la guerre est horrible, peut-être même qu'on peut la critiquer. C'est pas peut-être, on peut tout critiquer. Mais utiliser ce mot génocide, c'est une volonté de nous faire souffrir. C'est
une volonté de... Ceux qui le disent, ils savent parfaitement qu'ils disent un mot qui est totalement inadapté. C'est encore une fois une mesure qui n'est pas... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est lorsqu'on parlait des instruments de mesure, il n'y a pas que des instruments, on va dire, physiques. Il y a aussi un instrument d'évaluation morale, vous voyez ce que je veux dire ?
Bien sûr, sachant que tu veux manifester contre Israël...
Qui sont faux, et qui sont exacts.
Tu veux manifester contre Israël, on est en démocratie, le mot massacre est déjà terrible. Non, il faut que tu mettes génocide pour pouvoir... Je sais pas. Et voir des populations engagées dans la guerre, utiliser tous les moyens pour faire la guerre, on l'entend. Entre eux, ils se disent des choses, ils s'entretuent, alors ils vont forcément se dire des choses horribles. Mais voir Jean-Luc Mélenchon en France qui est en guerre avec personne, qui sait très bien où il conduit les gens en faisant ça, en le martelant dans les quartiers, dans les universités, partout, à la télé, lui, c'est criminel ce qu'il fait, c'est un crime. Eh bien, Ravi, je vous remercie et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
שלום לבוי נבוי, אם השם לא ישמור יהיה, שוב שוקת שוי מי, אם השם לא ינה בעיס. שלום לבוי נבוי, אם השם לא ישמור יהיה, שוב שוקת שוי מי.